Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes en direct sur 48 FM, il est 9h. Tout de suite, votre point sur l'actualité avec Garance Hugo. Bonjour Garance.
Bonjour Arnaud.
Une grève contre l'austérité européenne est organisée aujourd'hui à Bruxelles.
Oui, effectivement, la FGTB et ses militants se rassemblent ce mardi au rond-point Schuman. La STIB et la TEC soutiennent le mouvement. Nous ferons le point sur les nouvelles normes imposées par l'Europe. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale contre la censure sur Internet. Et en fin de journal, plongeons dans les coulisses d'une émission audiovisuelle en direct, un projet impensable sans la contribution d'étudiants jobistes. Grève de la FGTB ce mardi à Bruxelles. Le syndicat socialiste s'insurge contre le projet budgétaire de l'Union européenne. En soutien au mouvement, le TEC Liège n'assure pas 40% de ses voyages ce jour. Les manifestants dénoncent une politique d'austérité à venir, Dorine.
Alors, pour rappel, le mois dernier, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne avaient trouvé un accord pour réformer les règles budgétaires. Cette réforme devait permettre, je cite, « de garantir le redressement des finances publiques tout en préservant les investissements ». Mais pour Thierry Botson, secrétaire général de la FGTB, ces nouvelles normes vont coûter 30 milliards aux contribuables.
Quand on parle de faire des efforts à concurrence de 30 milliards, il faut savoir que le budget du paiement des allocations de chômage en Belgique, c'est 4 milliards. Vous voyez l'ordre de grandeur que ça représente, c'est immense. Et oui, ça va se traduire plus que certainement par un plafonnement, voire des diminutions en termes d'allocations sociales, les pensions, le chômage, les remboursements de soins de santé. Il va y avoir des coupes supplémentaires dans les services publics. Et puis, très certainement, des sauts d'index qui vont être imposés.
Alors, ça fait 2 ans que l'Europe discute de ces nouvelles normes, mais pour les élus de gauche, cette réforme, complexe dans le texte, va installer l'austérité au sein de l'Union. C'est pour cela que manifeste la FGTB aujourd'hui.
Les revendications, je dirais qu'elles sont en tout cas à deux niveaux. Premièrement, refuser ce nouveau carcan budgétaire. Et deux, il y a des moyens qui doivent être dégagés. Et ces moyens doivent être dégagés au travers d'une réforme fiscale digne de ce nom et qui met à contribution les revenus autres que ceux du travail. Parce que en Belgique, ce sont les revenus du travail qui sont imposés, fortement imposés, mais les revenus mobiliers, immobiliers, les revenus du capital sont très très peu imposés en Belgique et là, il y a des moyens à les trouver.
On a demandé l'avis d'Alain Jousten, professeur d'économie à l'ULIège et spécialiste des finances publiques et de politique économique. Et il se veut rassurant. Selon lui, ces nouvelles règles impacteront d'abord les pouvoirs publics et non pas directement les individus. L'impact éventuel se fera donc, je cite, « indirectement tant sur les travailleurs que sur les ménages ». Mais tout de même, si des restrictions budgétaires sont nécessaires, il semble bien que ce soit du côté des dépenses qu'il va falloir chercher. Et du coup, pour Jousten, le salut, ou en tout cas une partie du salut, passerait par une augmentation du taux d'emploi effectif, c'est-à-dire par la création de nouveaux emplois. Aussi, même si des restrictions sont annoncées, on ne peut pas déjà conclure, selon l'économiste, qu'elles vont entraîner une situation d'austérité. Si certains y perdront peut-être, d'autres pourront tout autant y gagner.
Précisons quand même que rien n'est encore joué, puisque ces nouvelles règles devraient être votées au Parlement européen fin avril.
Mais ce 12 mars, c'est aussi la journée mondiale de la censure sur Internet.
Aussi appelée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, cette journée a été fondée en 2008 par Reporters sans frontières. L'objectif était et est encore aujourd'hui de dénoncer la cybercensure, les fermetures forcées de sites web et la répression des utilisateurs, Marine.
À l'origine, dans le viseur de RSF, la Chine et ses lois concernant le contrôle d'Internet. À l'époque, effectuer une recherche dans Google au sujet de la place Tiananmen, par exemple, ne donnait pas les mêmes résultats aux États-Unis et en Europe qu'en Chine. D'un côté, les résultats mettaient en lumière le massacre de 1989 et de l'autre, ils le cachaient. Ceci est d'ailleurs toujours vrai puisque les autorités chinoises poursuivent leur effort visant à effacer les souvenirs de cette tragédie. Par ailleurs, la Chine demeure le pays qui enferme le plus de journalistes web et de blogueurs.
Ceci dit, l'actualité de ces dernières années nous apprend que la censure sur Internet, elle touche aussi nos grandes démocraties occidentales.
Big up à Edward Snowden et à ses révélations sur l'existence de plusieurs programmes de surveillance de masse américains qui lui ont valu de devenir l'ennemi public numéro 1 de l'oncle Sam.
Mais la censure sur Internet aujourd'hui, c'est aussi les algorithmes des hébergeurs de contenu. On pense à YouTube, Meta, TikTok, qui filtrent les productions, les publications et les échanges.
Et puis aussi, corrélativement, l'autocensure que s'imposent les créateurs et les créatrices si ils, elles, veulent voir leur contenu publié. Mais quelle limite à la liberté d'expression ? La question paraît légitime. Oui, parce qu'on ne peut raisonnablement pas tout dire, bordel. Hashtag va des rétro, harcèlement et discrimination. Du coup, la question subsidiaire est celle de savoir qui fixe les limites. Et sur le web comme ailleurs, il y a d'une part les lois qui obligent la censure des contenus manifestement illicites et d'autre part la collectivité, la morale et les usages, si vous voulez. Mais il y a aussi les plateformes elles-mêmes et leurs sponsors publicitaires qui orientent les discours sur les intérêts financiers. Ce sont elles qui créent les algorithmes. Et pour les créateurs et créatrices de contenu, ces algorithmes fonctionnent comme une épée de Damoclès, tant et si bien qu'ils, elles, en viennent même à flouter certaines images et biper certains mots.
Et cette autocensure est problématique à plus d'un titre.
En particulier parce qu'elle nuit à la clarté du discours et à sa réception, comme le fait de flouter en nu artistique, par exemple, ou de biper certains termes qui feraient référence à la sexualité dans des contenus informatifs ou pédagogiques, le risque étant de confondre vulgarisation scientifique et pornographie, recréant ainsi tabou et omerta.
Il est 9h07, vous écoutez toujours 48FM.
Nous vous en parlions il y a quelques jours, le Liège Game Lab organise un séminaire sur l'histoire des jeux vidéo en Belgique. Le second rendez-vous s'est déroulé hier dans les locaux de la Grand Poste, avec une captation sur Twitch, qui ne se serait pas possible sans, entre autres, la précieuse aide d'étudiants jobistes. Marie Liégeois s'est glissée dans les coulisses du direct.
3, 2, 1, c'est parti.
Le décompte fini et le pic d'adrénaline atteint, ce sont des étudiants concentrés qui s'activent derrière la console de la régie et l'objectif des caméras. Une collaboration avec le Liège Game Lab qui ne date pas d'hier.
Nous, on a l'habitude depuis maintenant 6 ans de travailler tout le temps avec des étudiants et des étudiantes qui nous aident à retranscrire des travaux, par exemple, qui assistent à nos réunions. Pour nous, c'est important parce que ça permet de faire entrer les étudiants un pas dans la professionnalisation. Ici, on trouvait que ça avait du sens d'aller à la Grand Poste, travailler avec le département commu.
Avec comme avantage, pour ceux qui ambitionnent de devenir les journalistes de demain, d'obtenir une formation bénéfique. Chapnam, étudiante en seconde année de master.
Je trouvais ça cool de pouvoir me former en caméra parce que j'ai pas vraiment touché la caméra. Et en soi, dans quelques mois, je serai un peu dans le marché du travail. Donc ça me permet d'avoir plus de compétences pour le milieu professionnel.
Une préparation au monde professionnel souhaitée et voulue par le corps professoral, selon Anissé Dupont, chargée de projets audiovisuels.
Les étudiants sont formés pour pouvoir travailler comme cadreur, régisseur, ingénieur son sur ces émissions. Et donc on a un niveau professionnel, mais en ayant évidemment à l'œil que ce sont toujours des étudiants en formation. Ça leur permet d'apprendre, mais tout en ayant des jobs d'étudiants.
Apprendre via un job d'étudiant, voilà donc une possibilité offerte par l'Université de Liège.
À Haïti, confronté à la pression des gangs et désavoué par la communauté internationale, le Premier ministre Ariel Henry démissionne.
Les pays des Caraïbes s'étaient réunis d'urgence avec des représentants de l'ONU et de plusieurs pays, dont la France et les États-Unis, pour tenter d'avancer sur une solution en Haïti, en proie à la violence des gangs et à une crise de gouvernance. Sans président ni parlement, le dernier chef d'État, Jovenel Moïse, a été assassiné en 2021. Haïti n'a connu aucune élection depuis 2016. Ariel Henry aurait dû quitter ses fonctions début février. Port-au-Prince a continué ces derniers jours à s'enfoncer dans les violences liées aux gangs qui réclamaient la démission du Premier ministre, tout comme une partie de la population. La capitale est le théâtre d'affrontements entre policiers et bandes armées qui s'en prennent à des sites stratégiques comme le palais présidentiel, les commissariats et les prisons.
À Gaza, la population a vécu lundi sa première journée de Ramadan sous les bombes.
Alors qu'une grande partie du monde musulman entre dans ce mois de sacré du jeûne, de nombreux habitants ont été réveillés par des frappes israéliennes, le ministère de la Santé du Hamas dénombrant lundi 67 morts en 24 heures. Après avoir déclaré qu'aucune trêve n'était en vue et que l'offensive sur Rafah, dernier point de contrôle pour entrer dans Gaza, aurait bien lieu, le premier ministre israélien Netanyahou a affirmé que la victoire dans cette guerre interviendrait plus tôt si les États-Unis et Israël étaient unis. Le gouvernement israélien est depuis plusieurs semaines critiqué par Washington pour sa conduite du conflit.
Et enfin, plusieurs nouvelles de bon augure pour nos sportifs belges.
Aux Jeux mondiaux d'hiver des transplantés organisés à Bormio en Italie, les athlètes noirs, jaunes, rouges ont empoché 7 médailles. Une belle performance dans ces Jeux qui s'adressent aux personnes ayant subi une greffe d'organes ou ayant été donneurs. En tennis, David Goffin passe le premier tour des qualifications du Challenger Phoenix sans forcer. Il devra encore battre le Français Terence Hadman avant d'intégrer le tableau final. Et ce soir, les Bulldogs de Liège peuvent se qualifier pour les demi-finales de la Benelink en cas de victoire. Coup d'envoi à 20h à la patinoire de la Médiacité.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Belle journée à tous sur 48 FM.